Alors, regardons. Regardons. Dans la Haggadah, en vérité, ça, Rabbi Shimshon d'Ostropolis, il a écrit beaucoup de livres qui ne nous sont pas parvenus. Il a écrit un sefer qui s'appelle Karnaïm. C'est un livre très compliqué, très difficile d'accès. À la fin de ce livre-là, il y a l'Ikoutei Shoshanim. Il restait quelques écrits qu'il a mis par écrit, des bribes, ce qui restait des petits cahiers. Donc, ils ont récupéré cela. Et entre autres, ce que les rabbins lui demandaient, lui, il avait un maguide, il le dit d'ailleurs dans la lettre, il dit qu'on lui a dévoilé on lui a dévoilé des secrets. Bon, il y avait beaucoup de rabbins à plusieurs périodes qui avaient, alors il parle de ça que si on a du sroute, on a une neshama tehora, on peut avoir du guilouï, le guilouï des sodot haTorah. Le Gaon de Vilna, il dit, le Gaon de Vilna, il dit, je crois, dans Michelet, quelque part, il dit, pourquoi on a besoin de dormir? Il dit, parce qu'il y a des choses que on ne peut dévoiler à l'homme que dans le sommeil. Parce que le Homer, quand on dort, le corps, il est réduit. La possibilité du corps, elle est réduite. Il reste plus que le nefesh, l'aneshama. Alors, c'est un moment propice quand le corps, l'activité du physique, elle est réduite, qu'on puisse lui dévoiler les secrets les plus profonds. Parce que sinon, on ne pourrait pas lui dévoiler quand il est réveillé. La névoie elle-même, le Rambam dit que le navire tombe dans un état second. Ceux qui ont assisté à l'état second prophétique du Ramchal, ils ont vu qu'il tombait dans un état second, et après, quand il reprenait conscience, il écrivait à une vitesse vertigineuse de dizaines de pages. Il y a quelqu'un qui a assisté, dit Loïoman qui est sous par, à quelle vitesse il écrivait des Hiddushei Torah extraordinaires. Donc, le dévoilement, il se fait quand on dort, parfois. Alors, il dit ici comme ça. Il dit le Hari, il est kvar odartikha, je pars au Mitzrayim, nilka, ben Mitzrayim, ben sermakot, al-dechel. Alors, il dit, je t'ai déjà dévoilé, le Hari, il dit, c'est la chante du Hari, qu'en Égypte, Pharaon a été frappé par 3280 anges, Malaché Chabala, qui sont préposés à punir les Réchaïm dans le Guéhinnom. Et qui sont placés sur trois Réchaïm, sur trois cieux de Touma. Un, il s'appelle Shin Réchaïm. L'autre, il s'appelle Tav Mem Vav Kaf. Et le troisième, il s'appelle Bet Shin et Aleph. Et sur ces trois-là, il y a un sar qui s'appelle Dalf et plus loin 4. Et au-dessus de tout cela, il y en a un qui s'appelle Tav Kouf Aleph. Donc ça, c'est ce que dit le Hari. Alors, on ne sait pas de quoi il parle. En fait, on ne sait pas de quoi il parle. Il dit le Rabbi, donc les rabbins de Lublin, ils ont demandé à Rabbi Shimshon, qui était à Cracovie, de leur expliquer. Donc, on est dans les années 1600 et quelques. Alors, il leur dit comme ça. Il dit, voilà, j'ai pas voulu vous dévoiler, mais je vais vous le dévoiler parce que vous êtes des grands rabbins. Donc, pourquoi il faut pas dévoiler? Alors, parce qu'il y a marqué, Olé Rachel Megalesot, au début de Hidra Rabba, Rabbi Shimon, il dit, il faut pas dévoiler les secrets de la Torah. Il faut pas raconter les secrets à n'importe qui. Il faut dévoiler les secrets à ceux qui le méritent. Alors, il dit comme ça. Il dit, c'est le sens que veut dire le Hari. Il dit, voilà, quand tu prends, d'où sortent les 3280? Alors, il dit, quand tu prends, Dam Sfardea Kinim, Arov Dever Shechin, Barad Arbe Hosher Makat Bechorot, alors, tu vas compter les makotels qui sont écrits dans la Torah. Dam, ça fait 44. Sfardea, ça fait 444. Kinim, il dit, Hasher Minashlishit Asara. Il faut enlever de la troisième 10. C'est-à-dire que Kinim, il faut pas l'écrire avec un yod. Il faut l'écrire Kaf Nun Mem. Ça fait 110. Et la quatrième, Arov, elle s'écrit sans vav aussi. Haser min arvei shisha. Arov sans vav, c'est 272. Dever Shechin. Shechin, il faut lui mettre un yod. Barad, Arbe, Hosher. Et Hosher, la neuvième, il faut enlever le Vav. C'est ce qu'il dit ici. Vine Morav et Rabotek. Alors, il dit comme ça ici. Je reprends. Alors, il dit. Qui a mou barri Kabbalah Maasit? Donc, on a dit à 3280, les Chachamim, ils ont dit, Kabbalah Maasit, ça veut dire c'est la Kabbalah, pas Kabbalah qui fait des miracles. C'est les gens qui étudient la Kabbalah. Ils savent que dans les Olamot, il y a 3280 Malachi Kabbalah qui punissent les Rechaim pour les purifier au Géinam. Et ils ont donné à ça un sens, quand ils ont dit, les accords, un passage dans Elishaya, je frappe le rachat avec le poing. B et grof. Alors, dit, B et grof, les accords, B et grof, rachat. Elle dit, comment B et grof? Et grof, c'est écrit Aleph, Gimel, Rechpé. Aleph, c'est 1000. Gimel, c'est quoi? C'est 3000. C'est 3 fois Aleph, ça fait 3000. Et Rechpé, c'est 280. Il y a ici une allusion certaine aux 3280 Malachi Habala qui sont marqués dans le Hari. Il dit, c'est par eux que Pharaon, il a été frappé. Alors, il dit, mais c'est Sod Nifla. Il dit, le Hari, il dit, il faut enlever, mais c'est pas n'importe comment tu les écris. Il faut enlever, il faut enlever de la troisième, le 10, de la quatrième 6, et de la neuvième 6, Bereshit. On sait pas, on n'est pas encore arrivé à ce que ça veut dire Bereshit. En tout cas, il nous dit, Rabbi Shimshon, que quand tu prends d'un Sfardei Akinim, Arov, Dever, Shechin, alors 44, 444, 110, 272, Dever, c'est 206, Shechin, 368, Barat, 206, Arbe, 208, Hosher, 328. Makat Bechorot, ça fait 1094. En tout, tout ça, ça fait 3280. Donc, c'est ce qu'il dit. En fait, c'est comme si qu'il disait que les makot, en réalité, les plaies, quand on dit la plaie d'âme, svardé, akinim, en réalité, ce sont l'application, chaque maka, en réalité, la maka elle-même d'âme, c'est une maka, mais elle contient en elle, selon la valeur numérique des lettres qui la composent, des énergies qui frappent Pharaon. Donc, le dame de valeur numérique 44, on va être Pharaon, l'Égypte, tous les Égyptiens, ils sont frappés avec 44 malachim qui les frappent. Et quand on parle de Svardia, c'est 440, etc. Donc on trouve en tout 3280. Ce qui est marqué ici. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc c'est Zénifla, comme Kakatouf, il dit le Hari, il dit Kakatouf. Quoi Kakatouf? Kakatouf Batorah. Mais pas comme ils ont écrit Baalé à Gadot, ils mettent des youd et des vav parce que les gens ils vont se tromper quand ils vont lire. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Il est Heshbon Mechouvan, voilà que le compte il est juste. Kasher Nirtav, Kinim Haser Youd, Arov Haser Vav, et Gachosher Haser Vav. Mais à la Heshbon Mamash, le parrain de Léoter. Et à ce moment-là, le compte est juste. 3280. C'est ce qu'il a dit, kakatou. C'est pour que le Harizal ait dit, comme ainsi que c'est écrit. Où écrit? Kakatou, bapirosh atora, batora, mefourage. Et pas comme ils l'ont écrit, baalei agada. Très bien. Mais gam, après il ajoute. Mais voilà, Rabbi Yehuda, il y a ici une vraie question dans Rabbi Yehuda. Tous les commentateurs de la agada, ils s'interrogent. Et qu'est-ce qu'il est venu nous inventer, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, yanoten ba'em simani. Rabbi Yehuda, il plaçait sur un siman. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi? Datsar Hadash Bahab. Qu'est-ce qu'il a inventé? La vérité, c'est n'importe quel. Qui peut faire ça? Qu'est-ce qu'il a inventé? Alors, il dit, quand tu prends Datsar Hadash Bahab, la valeur numérique de ces rachetés votes, ça fait 500. C'est ce qu'il a dit. Bereshit, donc c'est les rachetés votes, des makot, Dam Tsvardia, Datsar Hadash Bahab. Bereshit, c'est les premières lettres des Makot. Il y a un chien qui s'appelle, valeur numérique, Tav, Kouf, Aleph, qui s'appelle Asher, c'est la valeur numérique de Asher. Et ce malach-là, il est au-dessus de tous les autres malachites. Alors, où sont marqués les autres malachites? Il dit, c'est ce qui a marqué le Baal HaGadah, il dit, Elo, Aesher, Makot, Chevi, Akadash Baruch Hu ala Mitzrim be Mitzrayim. Elo. Voici, insère les 10 makot plaies chez Evi Akadash Baruch Hu. Alors quand tu prends Elo insère makot. Voici les 10 plaies. Le mot insère, c'est le premier rakia qui s'appelle Shin Raish Resh Ain. Makot, c'est le deuxième. Tu prends les lettres, tu fais Tav Mem Vav Kaf Sofit. D'accord, c'est à l'envers. Chevi, c'est le troisième rakia. Bet Yud Shin He Aleph. Donc dans cette phrase-là, le Baal Agada, il a introduit non seulement les 10 makot, mais ici il a mentionné les 3 rikiim de Touma où ces 3280 anges, ils frappent et ils punissent les rishaim dans le guéni. Mais allez, ala mitzrim. C'est quoi le mot ala mitzrim? Donc c'est il a dit qu'il y a un malar qui s'appelle Dalet, Lamet, P, Kouftet. Il dit ça, c'est les lettres qui précèdent un mitzrim. Al, un mitrim sur l'Égypte. C'est quoi sur? Ce qui vient sur l'Égypte. Donc les lettres qui viennent avant l'Égypte. Quand tu dis l'Égypte, au-dessus tu mets les lettres qui viennent. Quand tu prends le tab, tu mets en bas. Et au-dessus tu mets le shin, etc. Donc quand tu écris un mitrim, les lettres qui viennent au-dessus, sur un mitrim, c'est les lettres de ce mala.
Michel, il y a un problème de son. Michel, le son n'est pas très bon.
Alors, dis-moi.
Est-ce que tu nous... Attends. Jacques, pendant les, on va dire, ça fait 2 minutes que le son est moyen.
Je ne sais pas pourquoi, dis-moi, c'est de ma faute.
Est-ce que... J'ai l'impression que ton... Ouais, il y en a qui disent qu'ils entendent bien.
Il y a quelqu'un ici qui me dit qu'il entend bien.
Bon, on continue. Bon, alors, mais si tout le monde entend bien, si on peut... Vous pouvez mettre si vous entendez bien ou pas. Bon, c'est bon. Bon, j'ai des réponses me disant qu'ils entendent bien, donc on continue okay, normalement.
C'est bien. Ok. Alors, on peut continuer. Donc, regarde. Si j'écris le mot Amitrim, He, Mem, Tzadik, Resh, Yud, Mem. Donc, le même final, il ne compte pas parce que c'est la marque du pluriel. Quand j'écris le mot Amitrim, je place le mot là. Les lettres qui viennent au-dessus, les lettres qui viennent avant. Alors, sur le hé, il va y avoir le dalet. Sur le même, il va y avoir le lamet. Sur le tzadik, il va y avoir le p. Sur le reste, il va y avoir le kouf. Et sur le yud, il va y avoir le tet. Donc, ces lettres-là qu'on vient de citer, dalet, lamet, p, kouf, tet, c'est le nom de cet ange-là qui est préposé sur les 3 premières sphères que nous avons mentionné. Donc, quand on lit la phrase, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, il faut avoir le texte devant soi. Elo eser makot yevi. Eser, c'est le premier shin resh ayin. Makot, c'est les mêmes lettres que tav mem vav kaf. Yevi, c'est le même lettre que bet yud shin he ale. Ala mitzri, c'est le nom du malar que nous venons de citer. Et à cela, il faut rajouter les rachetés votes que Rabbi Yehuda il a innové. Il dit datzah hadash ba'ahav, ce sont à la valeur numérique de 500. Donc en vérité, ce que nous voyons par là, que d'à travers les simples mots qui sont employés dans la Haggadah, que nous on lit comme ça, en vérité chaque lettre, chaque mot, chaque détail, même les noms des rabbins que nous allons voir. Il mentionne des énergies, des forces, des lumières, des horotes qui détruisent le système de la Touma de l'Égypte. Si c'est clair, on peut continuer. Alors après cela, nous avons le fameux Asher. Asher, valeur numérique 500. Donc il y a ici la mitzvah, le Rav Shimshon, il explique ça en détail, il dit, il y a beaucoup Asher, le mot Asher, il fait référence à la matrice de la création. C'est la Bina, le mot Asher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe, il lui dit qui tu es, il lui dit Eye Asher Eye. Je suis celui qui est. Asher. Ce mot Asher-là, il est employé à plusieurs reprises. Il est employé dans la Torah à plusieurs reprises. Il fait référence justement à tout cela. À quoi? Aux énergies qui doivent émaner de la matrice, qui doivent se répandre pour donner la vie. Maintenant, il faut comprendre que les Égyptiens, ils ne sont pas punis. Il n'y a pas un système de punition sur l'Égypte. Et de l'autre côté, c'est un système de récompense ou de gentillesse pour Israël. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas ici de punition et de sanction et de récompense. C'est des énergies qui émanent. Les énergies, elles émanent avec une telle puissance que celui qui n'est pas préparé à les recevoir, qui ne s'inscrit pas dans ces énergies-là, il disparaît, il ne les supporte pas. C'est le trop plein de lumière qui se diffuse, qui éblouit. Alors c'est ça le mot Asher. Alors remarquez, les mains de sa perbeuse ne pinchaben et Asher it alait imtrei. Et Asher it alait. Encore une fois, le mot Asher il est mentionné ici. Il y a marqué aussi kol hamahala Asher samti bemitzrayim lo asim alecha. Et là-bas, il est fait référent dans ce passage-là de manière évidente à toutes les plaies qui se sont manifestées en Égypte. Toutes les plaies, kol hamahala Asher samti bemitzrayim, toute la maladie dont j'ai frappé l'Égypte, lo asim alecha, je ne la mettrai pas sur toi, je te guéris. Tu en seras guéri. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas ici la guérison. Il ne s'agit pas ici de donner. Si quelqu'un il est malade, on va lui donner un remède. Alors il a mal à la tête, je lui donne l'aspirine. Il a mal au bras, je lui mets un pansement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, la guérison ici de laquelle il s'agit, c'est qu'on n'est pas malade. Le système, il fonctionne tellement bien. C'est ça le sens même de la bracha qu'on en dit à Shariatza. C'est-à-dire que. Refait colbassar ou ma fille. Ça que je me crois, il guérit toute chair. Ça veut dire que le système, le corps humain est une machine qui fonctionne de telle manière que tout se conjugue, les milliers d'éléments qui sont nécessaires à la vie de l'homme, ils se conjuguent tellement bien, ils sont tellement en harmonie, il n'y a pas un qui empiète sur l'autre, que le système, il fonctionne de telle manière que le type, il tombe jamais malade. La machine, elle fonctionne continuellement de manière parfaite. C'est ça la réfoua. Les Égyptiens, ils ne pouvaient pas supporter ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont été frappés. Ils ont été frappés parce qu'ils ne sont pas dans ce concept de Mohin de Gadlut, comme on a dit hier. Eux, les Égyptiens, ils sont dans le concept de Mohin de Katnut. Ils ne voient pas plus loin que leur intérêt immédiat. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un Égyptien? Un Égyptien, c'est quelqu'un qui vient sur Terre pour se servir, pour jouir de ce monde. S'il est en haut du système, alors tout le système est à son service. S'il est en bas du système, alors s'il est au milieu du système, alors tous ceux qui sont en bas, il va les mettre à son service. Et s'il est le dernier, il essaie de devenir le premier. Donc, mais en vérité, tous vivent dans le même concept. Il n'y a pas un qui se dit que je me détache de ça et que ça m'intéresse pas de venir dans ce monde pour me servir. Je viens en ce monde pour me mettre au service. Ça, c'est le concept de Mohin de Gadlut. Mohin de Katnut, quand on est là que pour se servir, quand il y a trop, ça ne me dit rien. Je n'en veux pas. Je ne sais pas quoi faire. Du trop plein. Si par exemple quelqu'un on lui donne la connaissance sans limite, il dit, mais j'en veux pas, c'est trop, je n'y arrive pas, j'arrive pas à assimiler. Je ne sais pas quoi faire de toute cette connaissance. Ça peut arriver. C'est-à-dire, quelqu'un, il dit, voilà, je te donne 150 milliards de milliards. Et ça ne me sert à rien. Je ne sais même pas quoi faire avec. Il refuse la bracha. Il est repu. Ça ne lui dit rien. Le trop plein d'énergie fait qu'on rejette l'énergie. Donc, et les énergies nous quittent. Et on se détruit. C'est pour ça qu'en Égypte, ils ont été frappés. Alors que les Israël qui sont dans l'éducation, ils sont en train de s'éduquer à prendre de la hauteur. Donc pour eux, ça a été bénéfique. la Géoula. La Géoula, elle est dans un concept. Est-ce que souvent les gens ils disent nous on veut le Mashiach. D'accord. Pourquoi faire tu veux le Mashiach? Ah, pour la gloire de Dieu. Ah oui, mais il y a une condition. Le Mashiach il vient tout de suite, mais toi c'est comme si tu n'as jamais existé. Est-ce que tu es prêt, toi, Ben Adam, à te sacrifier comme si que tu n'as jamais existé? Tu ne vois pas le Mashiach, mais le Mashiach il vient pour Dieu. Toi, tu ne participes pas. C'est ça l'idée. C'est ça en vérité. Les gens, nous, on a un concept, comme il dit le Messilat Yesharim dans plusieurs endroits. Il dit les gens, ils font la Torah et les mitzvot. Même s'ils font la Torah et les mitzvot pour se purifier, pour avoir du shrout, pour avoir droit à la mabba, je ne peux pas dire que c'est mal, mais je ne peux pas dire non plus que c'est bien. Parce qu'ils sont toujours dans le système de se servir. Dieu, il est à leur service. Ils ne sont pas là pour servir Dieu, ils sont là pour se servir pour eux. Ils ne sont pas Abdim et Hashem, Abdim et Asma. Ça, c'est ce qu'ils disent dans le Messie de Jérém. De l'intérieur, il part beaucoup plus durement que ça. Avec beaucoup plus de force, que c'est totalement erroné. Cette démarche-là, elle est totalement erronée. Donc, c'est le concept de prendre la hauteur. Donc, c'est ce qu'il dit ici, le Asher it alalti de Mitzray. Donc, c'est ça la valeur numérique de 500. Après, nous passons aux trois rabbins. D'accord. Alors, nous avons vu. Alors, il y a trois avis dans la Haggadah. Rabbi Yossi Galili dit, en Égypte, Etzba Elohim, avec le doigt, avec l'index, ils ont reçu 10 makot. Et sur la mer, ils ont reçu avec la main, donc 50 makot. Après, ça c'est Rabbi Yossi Galili. Après, il y a l'avis de Rabbi Eliezer, qui va lui, il va expliquer le pasouk et il va le détailler. Donc le pasouk il y a un qui va l'expliquer en 4 temps et un il va l'expliquer en 5 temps. Donc Rabbi Akiva il va l'expliquer qu'il y a 5 makot dans le pasouk et Rabbi Eliezer il va expliquer qu'il y en a 4. Je vous enverrai une nouvelle version que j'ai faite de cela, Bezrat Hashem, vous verrez que là-bas, comment on analyse, il y a deux manières d'analyser le pasouk qui est mentionné, Haronapo, etc. Il y a deux manières d'analyser. Al-Kol Panim, nous dit le Hari, que quand nous disons Rabbi Yossi HaGalili, il dit Rabbi Yossi HaGalili, c'est une valeur numérique de 386, c'est un Shem Kadosh. Rabbi 212, Yossé 86, à Galilée ça fait 88. Tout ça fait 386, il dit Hashem, Shin, Pe, Vav, Amar, Vou, Ika, Otam. Donc le mot, quand Rabbi Yossé à Galilée, c'est le nom, c'est un Shem Kadosh en fait. Donc lui il dit, ils ont reçu 10 en Égypte et 50 sur la mer. Et il dit en plus, Rabbi David Ben Ishai, le David Ben Ishai, ça fait aussi toute valeur numérique de 386. Parce que Rabbi Yossi HaGalili, il est kashour en l'aneshama de David Ben Ishai. Donc il y a, comme il dit ici dans Sodé Raza, c'est un livre d'un Kadmon, Koubalim Ashkenazi, qui était en Allemagne ou en Pologne, qui a écrit ce sefer-là. Sefer de Gilgulim, des Hidushim de Kabbalah, ou 16e siècle, quelque chose comme ça. Alors, nous avons aussi Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, alors ça fait 530, Shem Takal, 530. Alors, lui aussi, il dit, donc, le nom du rabbin aussi, c'est le nom qui a frappé. Il a frappé non seulement en Égypte, mais il a frappé aussi sur la mer. Et après, nous avons Rabbi Akiva, 396. Valeur numérique, Rabbi Akiva, 396, le Shem Hachatsa. Donc, ces Shemot-là, qu'est-ce qu'on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec, en Égypte, ils ont reçu 100 Makot. Donc, il y a 10, 40 et 50. 10 pour Rabbi Yossé, 40 pour Rabbi Eliezer, et 50 pour Rabbi Akiva. Donc, ça fait 100 en Égypte. Et sur la mer, nous avons 500. Donc, il y a 500 sur la mer, 5 fois plus. 500 sur la mer et 100 sur... Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que la finalité, à quel moment réellement l'Égypte a été détruite? En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un point important. Zerachim Shon, il le souligne à plusieurs reprises dans les drachotes sur les parachutes de Bo et de Vaera. Il souligne ça. Zerachim Shon, il dit, sache qu'en fait, pendant toute la sortie d'Égypte, le Kohat humain, il n'est pas éliminé. Il est mis en sommeil. Il est réduit. Il est réduit à sa plus simple et plus petite expression. C'est ça le concept même de la sortie d'Égypte. À quel moment il va être totalement réduit, c'est quand il passe la mer. Là, il n'existe plus de Kohat humain de l'Égypte, pratiquement. Et s'il n'avait pas fauté, alors ça aurait été définitif. Alors j'explique ça. Zerachim Shon dans Pirkei Avot au début dans Toldot Shimshon, dans la première Mishnah ou dans l'introduction, il explique ce concept, là, ce que je vais vous expliquer. Il dit la manière suivante. Après le Hari, il dit comme ça. Il dit Adam Harishon, il avait une stature énorme. Il avait un corps physique. Bon, évidemment, le corps physique, comme nous l'avons dit, il n'était pas un corps physique comme tel que nous le concevons aujourd'hui. Adam Harishon, il avait un corps qui allait d'une extrémité à l'autre du monde. Imaginons un corps physique avec une matière fluide, pure, de l'air, je sais pas, du gaz, plus fluide, plus pur que du gaz. Donc, il avait un corps énorme. C'était d'une pureté, d'une transparence, d'une qualité raffinée exceptionnelle. Ce corps-là, il contient l'aneshama de tous les individus qui doivent venir au monde. Quand Adam Harishon, il faute. Alors, où est l'atoma? L'atoma, c'est le serpent, le serara. Il est quoi? Il est un tout petit, un rikiki, c'est un miniature. Il est tout petit. Il est à l'extérieur, il est tout petit, il est sous perfusion. Donc, il est maintenu en vie sous perfusion. On a besoin qu'il existe parce qu'il doit disparaître. Donc, on le maintient en vie. Et Adam Harishon, s'il n'avait pas fauté, le rat aurait disparu. Mais alors, quand il faute, qu'est-ce qu'il fait? Ce modèle réduit du Yetzirara, du Kohatuma, la structure miniature de Kohatuma, qui était minuscule, tout d'un coup, elle prend une ampleur. Elle monte, elle se développe, elle s'amplifie. Elle prend une ampleur énorme. Et là, elle arrive à dépasser pratiquement la stature de Adam Harishon. Et à ce moment-là, que Shmuchi met la main sur la tête de l'argent, il le ratatine, il le réduit. Donc, ce corps-là énorme, immense, fluide, qui était d'une pureté énorme, qui contenait des milliards et des milliards de Neshamot, il se réduit. Il n'y a plus de place pour tout le monde. Les Neshamot, elles tombent de l'autre côté. Elles tombent de l'autre côté, et c'est de ces Neshamot-là que les Kohot Atoma, ils vont se nourrir. Donc, tout le travail que nous devons accomplir, c'est d'aller chercher dans l'autre côté les Neshamot qui étaient du côté de structure de la Kedusha pour les récupérer. Et si nous les récupérons, à ce moment-là, la structure de l'Atoma, elle redevient ce qu'elle était auparavant, une structure qui est miniature et qui est maintenue sous perfusion à sa plus stricte nécessité d'existence. Elle n'a aucune force de par elle-même. Ça se passe à la sortie d'Égypte. Quand on traverse la mer, le système, il est complètement anéanti. Mais il reste un point. Il faut attendre Matan Torah. Ils ont fait. À Hegel, c'est revenu comme avant. Ça, c'est un fondamental qui dit le Zerachim Shon. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, il n'y a pas une destruction totale de la Kohatuma. Ce Kohatuma-là, il va se réduire encore à sa plus petite expression, juste à la, quand il traverse la mer. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs que la sortie d'Égypte, elle se fait par étapes. Elle se fait pas d'un coup. Pessah Mitzrayim, c'est un jour. Ils ont mangé matzah un jour. Et le issur de manger, il n'y avait pas d'issur de manger hametz. Un jour. Pas. Et le lendemain, ils sont sortis. Donc, c'est pour ça que l'Égypte, c'est la réduction de la sortie d'Égypte, c'est pas l'anéantissement total. Et cet anéantissement total, c'est nous qui devons le produire au fur et à mesure des jours qui passent, des années qui passent, pour arriver totalement à l'anéantissement. C'est ce que nous disent ici Rabotenu quand il parle de ça. Donc nous sommes arrivés aux 100 plaies en Égypte et 500 plaies en vérité. Donc les 500 plaies sur la mer, ils sont beaucoup plus puissants. Donc nous avons ici 600 plaies. 600 plaies, c'est l'espace, le concept des six côtés. Les Vav Ksavot, c'est la notion d'espace. L'Égypte domine l'espace. L'espace de la création, donc c'est la partie physique de cette création. Et elle domine cela. Et elle a, à part par les plaies d'Égypte et par les plaies de la mer, elle est réduite totalement. Donc c'est pour cela qu'il y a d'ailleurs l'interdit de retourner en Égypte. Maïmonide, qui a vécu de longues années en Égypte, chaque fois qu'il écrivait une lettre, il dit Ani, Moshe Bar Maïmon, envers Burkolom, Achalosh Lavi. Dis-moi, je suis Moshe Bayman, qui vit en Égypte, je transgresse tous les jours trois avérotes de la Torah. Que quoi? Qu'on n'a pas le droit de revenir en Égypte. Il dit, pourquoi tu n'as pas le droit de revenir en Égypte? Parce qu'en Égypte, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à récupérer. Asota Metsula, Shen Badaki. Si on imagine que l'Égypte était un vivier d'énergie, un vivier où il y avait des énergies à récupérer, quand les Bnei Israël sortent, ils emportent tout, il n'y a plus rien à récupérer. C'est pour ça qu'ils sortent, d'ailleurs. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, que l'une des missions importantes qu'Akadosh Baruch Hu confère à Moshe, il leur dit, s'il te plaît, va leur dire de prendre l'argent des Égyptiens. S'il te plaît, qu'ils sortent avec l'argent. Parce que l'argent, la puissance économique, la puissance d'un pays, c'est les énergies qu'il contient. Quand on sort de là avec toutes les énergies, il n'y a plus rien. Donc le système il se détruit de par lui-même. Donc c'est pour ça qu'ils sortent avec toutes ces énergies, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle ils sont là. Après Rav Shimshon il continue, il nous dit "Ou bien Hashem Kadosh Baruch Hu makeh bo marpe agalou." D'accord. Alors c'est ce que j'ai expliqué un peu précédemment, c'est que ce avec quoi que je vous refrappe, le galout il se guérit par ça. C'est-à-dire c'est pas que c'est double facette. Pour les uns, c'est une punition, pour les autres, c'est une récompense. Non, c'est la même chose qui est, pour les uns, comment les uns les reçoivent, c'est une punition. Comment les autres les appréhendent, c'est parce qu'ils sont au niveau de les recevoir. Alors, il ajoute ici quelque chose d'intéressant, que, et quand je vais au il a frappé les Égyptiens, quand on prend Dame Svardé Akinim, moi, je les ai fait en tableau. Quand vous mettez en colonne Dame Svardé Akinim, Arov Devershir, en trois colonnes, Dame Svardé Akinim, Dalet Sadik Kaf, Adash en deuxième colonne, Bet Alef Het, et plus loin Bet en troisième colonne. Vous avez Datsar Adash Beah. Quand vous les lisez en colonne. Mais quand vous les lisez en ligne, alors vous avez Da'ab Tzadda Keshehab. Il dit Rabbeinu Ari, il dit, quand les Égyptiens, ils sont frappés, alors c'est dans l'or, en colonne, ils sont frappés. Quand les Makot frappent les Égyptiens, ils frappent du haut vers le bas. Mais quand elles frappent, elles sauvent les Juifs, les Israël, c'est quand ça va dans l'autre sens. Est-ce que c'est du haut vers le bas ou de droite à gauche? Si on lit les lettres de droite à gauche, alors ça, c'est la guérison pour Israël. Et si on les lit du haut vers le bas, c'est la maca pour les Égyptiens. Donc on voit bien que c'est pas que les macotes elles sont venues l'une après l'autre. En vérité, il y a marqué c'est ce que a voulu dire d'ailleurs Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda il n'entend pas même simani. Qu'est-ce qu'il a marqué? Et Rabbi Yehuda il a dit les 10 macotes c'était marqué sur le bâton. Et dès qu'il a commencé mon cher Rabbeinu à frapper la première, alors sur les Égyptiens, il y avait les 10 makot. Les dames Svardé Akinim, ils étaient marqués. Et au fur et à mesure que les makot passent, au fur et à mesure que les makotes passent, alors il y a une lettre qui s'efface. Et au fur et à mesure, ça avance, jusqu'au moment où il ne reste plus rien. En réalité, les makotes, ils étaient sur eux. Donc ça veut dire, sur les uns, c'est les makotes. Sur les autres, c'est la guérison. C'est parce que dans le comme j'ai dit précédemment, que si je dis que le dalet, c'est une maka, mais c'est des horotes, en fait, c'est des lumières. Celui qui est capable de recevoir les lumières, alors il a la guérison. Celui qui n'est pas capable de recevoir la lumière, alors il explose parce qu'il y a un trop plein de lumière. Et c'est ça l'idée. Et là, c'est ça l'idée qui est marquée ici. Donc, on a essayé de je ne sais pas s'il reste du temps, où il faut s'arrêter ou il faut continuer. En tout cas, voilà, c'est ce qui est marqué ici. Il nous dit en plus, le Rav Shimshon, qu'il est bon de lire cette lettre-là après qu'on lui a dévoilé ça. Il dit, c'est bien de lire cela la veille de Pessah. Pourquoi la veille de Pessah? Donc, comme on l'a dit précédemment, la veille de Pessah, après Chatzot, on a éliminé le Hametz. On a fait l'abdika. Donc, l'abdika, c'est pas juste aller chercher 10 morceaux de pain. Il faut aller chercher au fond de soi, de notre monde. Notre maison, c'est notre domaine. C'est notre monde. Olam sheli, kol echad yesh lo olamo. Chacun, il a son monde. Dans son monde, chacun, il doit aller chercher tout ce qui est l'égoïsme, la suffisance, le plaisir de ce monde, la séduction, le pouvoir, le désir d'être, de s'affirmer, de la nature humaine. Allez chercher tout ça, rassembler tout ça. C'est ça la notion de Hamet. Laissez la nature faire les choses. Non, je laisse pas la nature prendre le dessus. Je vais nettoyer tout ça. Je brûle. Je brûle de manière fondamentale. Ça veut dire, c'est comme après un briskerini, c'est une mitzvah chez Begoufo. C'est-à-dire, c'est une mitzvah dans la hefsa de Hametz de le brûler. L'objet Hametz, il faut le disparaître. Donc, on a éliminé le Hametz. On a commencé à faire Korban Pessah. Donc, c'est le moment le plus propice où la Koah Hatouma, il est véritablement réduit. La veille de Pessah est plus forte que le jour de Pessah. C'est la veille de Pessah. Avant que la Makat Bechorot, elle va se placer, en vérité, déjà, les Égyptiens, ils sont complètement réduits. C'est le moment le plus propice pour lire pour dévoiler les horodes de la sortie d'Égypte. C'est Hidushim là. Encore une fois, un Hidush, c'est joli, c'est magnifique. Mais un Hidush, c'est puiser des énergies nouvelles, renouvelées, innovées, qui vont nous permettre de rebondir, d'aller de l'avant. La Hamshacha. C'est encore une fois, c'est la hamshacha, c'est la continuité, c'est la vie s'arrête. Et là, je vais chercher des chidushim nouveaux. Chidush, bon, bien sûr, non, c'est un chidush, c'est mehoudash, quelque chose qui n'a peut-être jamais été dévoilé. Aller chercher, puiser au plus profond des réservoirs des énergies pour le faire jaillir, pour pouvoir aller de l'avant, pour rebondir, pour progresser, pour m'élever, pour la progression de l'ascension vers l'excellence, le sommet de la Avodat Hashem. C'est le moment véritablement propice. Tout le mal qui peut nous arriver, il ne vient que des Kohot Hatouma. Tout le mal, c'est Kohot Hatouma. Nous devons les éloigner de nous, les éliminer, et faire une place certaine à Kadosh Baruch Hu dans son monde. Nous accaparons le monde d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il s'est accaparé le monde. Il prend la place de Dieu. C'est pour ça que quand on fait Kriyat Shema, l'essentiel de faire Kriyat Shema, c'est d'accepter de disparaître. M'kabel alay, arba mitot beddin. Je suis prêt à disparaître, arba mitot beddin, pour la place à Dieu. Quand je dis Be'ahava dans l'Amida, je me suis m'kabel alay, de mourir, disparaître, comme si je n'ai jamais existé, pour laisser la place à Dieu. Mais ça, c'est toute l'Avodat Hashem, elle est là. Et c'est le contraire, complètement à l'opposé de ce que nous, que les individus agissent. La majorité des gens, ils ne pensent qu'à eux. Chacun emploie sa position. Parce que, comme il dit Rabbi Haïm Vital, voilà que la vérité, c'est pas pour en penser une porte ouverte. Il y a il y a la Mishnah, elle dit, c'est une Mishnah que tout le monde connaît. Kol alomet Torah lishma zochet dvarim arbe. Tout celui qui étudie Torah lishma, il aura beaucoup de réussite. Mais on est ni mimeno, tout ce qui a marqué dans la Mishnah. Alors il dit Rabbi Chaim Vital dans l'Agdama du Shara Agdamot, il dit mais voilà, je vois que où sont-ils tous ces gens-là qui connaissent toute la Torah de manière parfaite? Et où sont les Yishuot qu'ils amènent? Où sont-ils tout cela? Où on voit la réussite dans le livre? Où on voit la Toshia, ce qui est marqué dans la Mishnah, Zochel Lidvarim Arbe, où c'est marqué? Il dit, c'est vrai qu'il y a un manque. Il y a certainement qu'il y a un manque. Il y a quelque chose à rajuster. Il faut que chacun d'entre nous il rajuste là où ça marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas convenable. L'Agmara elle dit que si Monsieur le Tchari me ramène ça, que Rabbi Yoshua ben Lévi il avait Léon Navi qui venait tout le temps le voir. Un jour il n'est pas venu. Il a dit une semaine il n'est pas venu. Il dit pourquoi tu n'es pas venu? Il dit mais comment je viens? Il dit ici derrière, à côté de toi, derrière ta ville. Il y a un type, il est sorti dans la rue, il s'est fait tuer par un lion. Il dit, comment toi, tu n'as pas le droit de le sauver? Tu n'as pas ton mérite, il a pas protégé ce type-là? Ça veut dire que Colmi, tout celui qui est le chef de la Keïla, le Rav, tout ce qu'on veut, peu importe, Rav, c'est des termes qu'il ne faut pas employer. Tout celui qui est responsable, son mérite, il doit servir de bouclier pour la Keïla. J'ai lu une fois quelque part, il y a le rab de la ville a démissionné. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a eu des problèmes dans la ville. C'est-à-dire que moi, je suis pas ce route, qu'il n'y a pas de problème dans ma ville. C'est-à-dire que c'est moi qui a un défaut. Si moi, mon ce route, il n'est pas suffisant pour faire qu'il y a la paix, la tranquillité, il n'y a pas de malade, etc. Il dit, c'est moi le problème. Il est parti. Il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il ne s'est pas trouvé suffisamment méritant pour faire en sorte que dans sa ville, il y a la paix, la prospérité, la tranquillité, etc. Il est parti, il s'est sauvé. Mais je ne suis pas digne d'être le rab de la ville. Donc, c'est ça ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital. Il dit, si PMS, nous, on avait cette amshacha de Haïm. La amshacha, c'est-à-dire se mettre au service de la Kadosh Baruch Hu. Comme il dit le monsieur, je n'allais pas à nous servir de Dieu pour arriver à nos pas, pour grandir notre nom. Et chacun y va de son commentaire, et chacun y va de la culpe. Il essaie de culpabiliser les gens. Ils adorent culpabiliser le public. Et il faut réfléchir, messieurs dames, réfléchissez. Il dit mais donne-nous l'exemple, Habibi, donne-moi l'exemple. Sur quoi il faut réfléchir? Qu'est-ce que toi tu as tiré de leçon que tu n'es plus comme hier? C'est ça la leçon qu'on cherche, et que c'est notre interrogation, elle reste plus forte que les réponses que nous avons trouvées. Et il me semble que, en puisant dans les chidushim des profonds de valeurs de Rav Shimshon d'Ostropolis, voilà, nous avons un individu qui a sacrifié sa vie à Kiddush Hashem. Il est mort dans les Gzerot Tahvetat. Il a été assassiné. Kiddush Elyon. Et on voit combien ces chidushim, ils sont magnifiques. Et qu'ils ont permis à de nombreuses personnes d'être préservées dans les pires situations, puisque lui, il le garantit. Alors, il attend que ces gens-là qui se mettent au service des autres, ceux qui se mettent qui ne cherchent pas à promouvoir leur position, mais ils cherchent le bien-être de tous. C'est ça, la mida du vrai hassid. C'est ça ce qu'il dit le Ramchal. La mida du hassid, c'est celui qui va faire des choses au-delà de ce qu'il devrait faire, et mettre ça en faveur, porter ça au bénéfice de l'ensemble de l'Am Israël, les chavod de Kadosh Baruch Hu, les chavod d'Amo, les chavod de Shrinato. Et Ratson, le Kadosh Baruch Hu, il fasse en sorte de mettre un terme à nos problèmes, qu'il nous prenne Berahamim, qu'il garde chacun, que les malades, il leur octroie la santé, et que ceux qui sont en bonne santé, il les maintient dans la santé, qu'il nous ouvre les yeux, la lumière, qu'il nous illumine, qu'il nous donne véritablement les mouhines de Gadlot, que nous puissions prendre de la hauteur et comprendre véritablement ce que Hachem il attend de nous, Béhémet, nous mettre nous à notre servir et surtout pas nous servir de lui pour arriver à nos fins. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. S'il y a des questions.
Merci beaucoup, Michel. Alors, ce que je propose, c'est que ceux qui ont une question lèvent la main et je là, j'ouvre le micro, tout simplement.
Moi, je vois rien, là.
Pardon ?
Tu me vois ? Ah, voilà. Okay.
Ici, ici.
Ouais. Alors, s'il y a des questions, dites-moi. Si j'ai été clair, j'ai pas été clair. Je t'entends pas.
Alors, j'en profite le temps de… Ah, il y a une question, attends. Il y a une question de Ethan. On va lui ouvrir le micro. Une seconde.
Il a dit, c'est quand le prochain cours, je ne sais pas c'est quoi.
Oui, ça va être la dernière question, ça, celle-là.
Ça va être ma question à moi, celle-là, la dernière. Quelqu'un l'a déjà posée. Quelqu'un l'a déjà posée.
Alors, attends, une seconde. Il faut que j'ouvre ça. Ethan, une seconde. Participant. Alors, Ethan. Vas-y, Ethan, tu as le micro. Ethan, normalement, il devrait pouvoir parler. Il faut qu'il ouvre son micro, Ethan. T'as ton micro éteint. Bon, je sais pas. Il y a une question que tu peux lire, Michel.
Elle est passée, mais je sais pas.
Comment atteindre le niveau de Keilu Yatsa Mimitzrayim, Chayav Adam Lirod et Asmo Keilu Yatsa Mimitzrayim le soir de Pessah.
Cher ami. C'est se remettre dans la condition. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si tu racontes, comment tu as. C'est-à-dire que. C'est moi, quand je raconte la sortie d'Égypte, alors je ne raconte pas une histoire. C'est-à-dire, je vis la chose. J'arrivais à se convaincre, à vivre la chose. C'est-à-dire, je suis en Égypte. En vérité, il ne faut pas prendre au sens péjoratif ce que je vais dire. La religion, c'est un jeu de rôle. C'est prendre un rôle. Quand, par exemple, je vais faire la tefila, alors j'endosse le rôle de celui qui prie. Quand je fais un cours, alors j'endosse le rôle. C'est comme un théâtre. Là, je suis dans le rôle de celui qui prie. Là, je suis dans le rôle de celui qui fait cours. Là, je suis dans un autre rôle. C'est des rôles. Je dois être un bon acteur. Quand je fais la prière, alors je dois dire à Dieu, je t'aime. Alors c'est comme si que je fais Roméo et Juliette. Imagine, je suis un acteur, je fais la pièce de théâtre Roméo et Juliette. Je prends ma mandoline et Juliette, elle est en haut et je dis, je t'aime à Juliette. Et le metteur en scène, il me dit, tu dis des mots, mais on voit aucune émotion. C'est un mauvais acteur. C'est pas bon. Donc il faut, chaque fois, c'est un travail. Ça va pas se pratiquer en une fois. Il faut s'y préparer. C'est-à-dire en étudiant de manière fondamentale, parfaitement, les midrashim, la Haggadah, tu te mets dans la condition de qu'est-ce que c'est la souffrance en Égypte, qu'est-ce que c'est le galout, c'est quoi même tête, char et touma. C'est arriver à un niveau de désespoir complet. Il n'y a plus d'espoir. Comment on arrive à cela? Donc, il faut se mettre dans ce concept-là. Et tout d'un coup, je respire. T'imagines, on a des amis qui étaient intubés, en coma 3 semaines. On n'y croyait plus. Ici, le malheur, il est fini. Comme on a entendu d'autres. Et tout d'un coup, ce type-là, il s'est levé. Tout d'un coup, il s'est levé. J'imagine ça. Imagine ça. C'est ça. T'imagines, tu étais en Égypte. Imagine, tu étais en galoute d'Égypte. C'est-à-dire, toi, tu étais dans le coma, intubé avec le respirateur. Pendant 210 ans, tu respires pas. Tu es dans le coma artificiel. Et tout d'un coup, il y a un truc, je me réveille, j'ouvre les yeux. Je respire, j'existe. J'existe. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais non, on n'a pas conscience, mais Baruch HaShem, enfin Baruch HaShem, j'ai dit une bêtise, mais on a l'exemple de ces gens-là qui se sont réveillés. On a l'exemple des gens qui étaient morts. Pratiquement, on n'avait plus d'espoir. Et tout d'un coup, ils se sont réveillés. Ce type-là qui s'est réveillé il y a un jour, deux jours, une semaine, j'ai entendu, l'autre, il est rentré chez lui, l'autre. Ce type-là, comment j'ai vu sur BFM un médecin qui racontait que le type, il s'est réveillé, et il a ouvert la vue, il a vu les médecins, il a dit, je vous aime, vous m'avez sauvé la vie, je vous aime, je sais pas ce qu'il leur a dit. Ils étaient épatés. Et c'est exactement ça qu'on doit, considérer la délivrance d'Égypte. Kilou, Yatsam Mitzray. Kilou, c'est-à-dire, imaginons, Alenu, quelqu'un est dans le coma. Il avait des problèmes respiratoires, on l'a intubé, on l'a mis dans le coma. Il est resté 3 semaines dans le coma. Et un jour, il ouvre les yeux. Ah, quand il va venir à table raconter à ses enfants, il dit, moi, c'est pas des histoires qu'on vous raconte. Moi, j'étais mort. Moi, j'étais mort complètement. J'étais dans le coma profond. J'arrive même pas à respirer. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Voilà. Je raconte du vécu. C'est se mettre dans ce rôle-là. C'est ça, la vérité. C'est du vécu. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est une réalité. Quand tu pries, quand tu mets les tchilin, j'ai dit une fois, je vous ai raconté une fois, j'ai fait une haboura à Sukkot. Il y a 2 ans, mon fils, il devait revenir d'Israël. Et le dernier jour, il me dit, j'ai pas de etrog, j'ai pas de loulav. Je sais pas ce qu'il me racontait. Donc, je suis parti le dernier jour acheter un loulav ou un etrog pour lui. Et un gars, j'étais devant chez Noblesse. Devant chez Noblesse, là-bas, au Flanagan. Il y avait le goy, l'hindou qui vendait les bijoux. Il me voit en train de vérifier le truc. Il m'a dit, monsieur, vous faites quoi avec le citron là? Je dis, monsieur, vous êtes du quartier, ça fait 30 ans que je vous connais, vous êtes là. Il m'a dit, oui, je sais, les trogues, tout ça. Il me dit, vous faites quoi? On dirait que vous regardez quoi? Il me dit, dites-moi ce que je regarde. Il m'a dit, vous regardez ça, on dirait un bijou. Un diamant, vous regardez. Mais le goy, le bijoutier, il me dit ça. Il dit, Hazak ou Barour, c'est exactement ça, monsieur. Je regarde un diamant. C'est un diamant. Quand tu achètes un etrog, c'est un citron qui vaut 10 euros, qui vaut rien. Mais quand moi je le choisis et je le prends, je le paye et je le paye 100 euros et je le mets dans mon arba minime, c'est plus un citron. C'est Shem Avaya Baruchou, c'est un diamant. J'ai pour une semaine un diamant à 100 euros que j'ai payé cher, que je fais avec ça une mitzvah. Quand je mets les tefillines, c'est pas une boîte de je sais pas quoi, c'est un diamant avec des orotes. C'est comme si que quelqu'un y va à Buckingham Palace et il lui dit, monsieur, tu as le droit de t'asseoir 5 minutes sur le trône de, je sais comment il s'appelle, la reine d'Angleterre, et tu mets la couronne avec le bâton là du roi, les habits du roi de Louis, je sais pas comment. Alors le type, il va faire des photos. Il dit, j'étais habillé avec le truc de roi d'Angleterre. Je dis, mais tous les jours, tu mets la couronne de Dieu, toi, sur ta tête. Tous les jours, tu mets le diamant de Dieu sur ta tête. Tous les jours, tu mets un tzitzit, c'est Shem Havaya Baruch Hu. Et le tchilin, c'est les Shem Havaya. Tout est Shem Havaya. La mezouza, c'est pas Shem Havaya. Tu vas faire une photo parce que la reine d'Angleterre. Mais tous les jours, tu as ça. Si tu avais la conscience de ce que c'est une mitzvah. C'est ça, c'est d'être dans ce rôle. C'est dans ce rôle, quand tu vas manger la matzah. Moi, j'ai enseigné des années. Je tapais des crises quand les élèves ils me disaient la matzah, c'est dégueulasse. Combien de fois j'ai entendu, c'est dégueulasse la matzah. Mais je disais, mais comment dégueulasse la matzah? C'est une mitzvah Hashem. C'est une mitzvah, ne'amadeh asvata, ne'amadeh ne'manuta. C'est une mitzvah extraordinaire. Une fois à l'année, un kazaï de matzah, tu dis c'est dégueulasse. Dis à Dieu que c'est dégueulasse la mitzvah. Alors, je lui levais la fenêtre. Je lui dis, regarde, le ciel, dis à Dieu, ta mitzvah, elle est dégueulasse. Il me dit, pourquoi? Mais c'est ce que tu es en train de dire. La mitzvah, elle coûte cher. Elle me casse la tête, ça me casse les dents, ça me demande des efforts. j'admets tout. Mais dire c'est dégueulasse, mais c'est un honneur. C'est un honneur. C'est qui, par exemple, quelqu'un, il est marié 20 ans, il veut offrir un bijou à sa femme. Il n'a pas tellement d'oseille. Alors, il va économiser pendant des mois. Il va économiser. Il se prive de quelque chose, il met de l'argent de côté. Au bout de quelques trucs, il a ramassé 5, 6 000 euros, il va aller acheter un bijou à sa femme. Ça lui a coûté. Et au lieu d'aller au cinéma, il a mis de l'argent de côté. Mais quand il offre le bijou à sa femme, il est heureux. C'est ça la mitzvah. Ça m'a coûté. Ça m'a demandé des efforts. Mais je suis heureux de la faire. Alors, c'est ça la mitzvah. Ne me dis pas la mitzvah, c'est dégueulasse. C'est quoi? C'est la mitzvah, avoir la conscience de ce que c'est une mitzvah. C'est tout un travail. C'est prendre le temps de vivre la mitzvah, de trouver plaisir dans la mitzvah qu'on a accomplie. De tout ce qu'on fait, il faut trouver plaisir. On peut pas faire les mitzvot, servir Hachem, dire que c'est une galère, dire que c'est une souffrance, dire que ça me saoule. Et un type, il m'a dit, je préfère aller jouer au golf que d'aller faire la tefila. J'ai dit, on va jouer au golf. Je suis là, si au bout de 40 ans, le mec, il préfère aller au golf. Bon, au golf, c'est là, tu n'as aucun sens. Si tu n'as pas trouvé plaisir, c'est vrai, au début, tu vas faire sur l'ichma. Mais il faut trouver une dimension de vie dans la mitzvah. C'est à l'effet. C'est des choses tellement évidentes. Je ne sais pas comment on arrive là.
Oui. Alors, on a une autre question. Pourquoi être reconnaissant envers Hachem de nous avoir épargné la mort des premiers-nés alors qu'il nous a épargné des 9 autres plaies?
Non. Ça veut dire quoi la mort des premiers-nés? J'ai pas compris.
Quelqu'un demande pourquoi, je lis, hein, je cite, pourquoi être reconnaissant envers Hachem de nous avoir épargné la mort des premiers-nés,
ouais,
alors qu'il nous a épargné des 9 autres plaies?
Oui, en vérité de tout. Mais la mort des premiers-nés, c'est une makaraba et coupelette. Ça veut dire qu'en vérité, c'est-à-dire quand on prend par exemple les dix paroles de Maharim, c'est pas livre en Olam. La Mishnah a dit, il y a 10 paroles de la création. Alors, il y a 9 fois Vayomer et il y a une fois Bereshit. Bereshit, c'est un Mahamar global. Dans l'ordre des makot, c'est dans le sens inverse. Ça va du plus bas vers le plus haut. Quand on arrive à la makat Bechor, on a été pharaon, il aurait dû être frappé d'une seule maka. Une seule maka, ça lui suffisait. Makat Bechor. Mais simplement, lui, il a dit, je connais pas Hachem, mort, il a voulu faire un peu le malin, donc on va lui donner 9 makot. Mais en vérité, la makat Bechor, elle est la globalité de tous les autres. Donc en vérité, quand tu es sauvé de la makat Bechorot, la makat, c'est comme si que Bereshit, c'est le Mahamar qui a tout créé. Et après, les détails sortent. Dans makat Bechorot, c'est une makat globale qui englobe tout, qui contient les 9 autres. Alors en vérité, quand tu dis j'ai été sauvé de makat, c'est tout un petit makat qui a été sauvé. C'est une makat globale. Parce qu'elle elle est d'une puissance, elle est concentrée en réalité, la puissance de la makat Bechorot.
C'est pour ça qu'on jeûne qu'en souvenir de cette makat-là.
Oui, on peut éviter de jeûner, c'est mieux. Je ne sais pas comment on va faire cette année, mais moi, je pense que si quelqu'un il étudie un peu de Mishnayot, Perkei Avot, il peut faire Sioum. Mm-hmm. Peut-être qu'on peut faire, peut-être qu'il est possible de participer Sioum à distance, peut-être.
C'est ce qu'ils disent les rabbinim aujourd'hui.
Ouais, parce que de toute façon gêner c'est un minac, c'est pas une obligation. On peut faire comme ça. En plus moi surtout ici le type il va gêner jusqu'à 10h du 9h, enfin tard, ça va être très difficile pour les gens de gêner toute la journée. Jusqu'au moment en plus. Et en plus il peut pas manger, après il faut faire le type il va faire qui douche, il va être 9h. Et après, il va manger, je ne sais pas quelle heure, ça va être très difficile. Il vaut mieux faire un peu de limoud. Et quand je bocho, il est mechaper à Alenou. On vit une période assez difficile. Il ne faut pas être. Je pense. Hein. Mais sûrement qu'il y a des bains qui permettent, par vidéoconférence, de faire le sion.
Oui, tout à fait. Alors, Michel, merci beaucoup. Alors, dernière question, il y en a qui l'ont déjà posée, mais est-ce qu'on pourra, pendant Chol HaMoed, en fonction des disponibilités que tu auras, qu'on fasse
David, on est disponible, on est content.
Je suis diplomate, Michel, je suis diplomate. Ouais, Bezrat Hashem, est-ce que tu pourras nous réserver un moment pour qu'on fasse une petite rabourra d'un sujet qu'on déterminera.
Ouais, pourquoi pas. Alors, n'oubliez pas, les amis, moi, j'avais l'habitude chaque année de remplir un peu de sel et de distribuer. Ah, oui. C'est un gros ségoula. Il faut diffuser ça, c'est très important. Prenez un petit sachet, vous et la famille. Moi, je donne à toute. Mais aujourd'hui, bon, cette année, on n'a pas fait, donc on est confiné. Mais prenez un petit sachet, mettez un peu de sel gros et faites avec ça la première mitzvah de Sfirat HaOmer. Et chaque fois, et pendant toute la Sfirat HaOmer, chaque fois que vous faites la bracha, vous attrapez votre sac de sel tous les soirs jusqu'à. C'est une ségoula de Shmira, de Sroud, de la mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est la seule chose qui nous reste de Bémet Sfirat HaOmer. C'est le lien avec le Corban HaOmer, en vérité, c'est le sel. C'est ça. Alors, il faut dire aux gens de faire ça, c'est une ségoula. Ça peut procurer que des avantages, quoi. Ça coûte rien. Un peu de sel.
D'accord. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Michel.
Je vous, les amis, Hashem Ishmor Alechem. Alors, je vous souhaite le meilleur pour chacun. Et afin que Kadosh Baruch Hu, il octroie la santé à ceux qui sont malades, qu'il les rétablisse en forme. Et qu'il préserve les ordres de tous les maux, et quand je me couille au Marda, il est tsaroté, nous. Et qu'il nous octroie vraiment un peu d'intelligence, un peu de connaissance, d'humilité, de modestie, et qu'il nous sorte de cette galère, qu'on puisse reprendre une vie normale, Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver dans les synagogues, dans le Bet HaMidrash, que les gens ils puissent reprendre leur travail et gagner leur vie correctement. Que la vie retrouve son rythme habituel. Yiratzon, que l'Isbasser Besorot Tovot, Yeshuot Venecham.
Amen. Il y a Michel, il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot. Il est parti. Il est parti. J'ai ouvert son micro, il est parti. Donc, je ne sais pas.
Wakil, il y avait un Wakil à marquer là, c'est ça?
Pardon?
Non, je ne sais pas, j'ai vu un Wakil, je ne sais pas, quelqu'un qui s'appelait Wakil.
Oui, pareil, je ne sais pas, j'ai pas pu ouvrir plus son micro que ça. Merci beaucoup, Michel Kodaraba.
La technologie, je crois.
Oui, tout à fait. En tous les cas, le cours a été enregistré intégralement, je t'enverrai le lien.
Alors, tu peux envoyer, regarde, je ne sais pas comment ça se passe, parce que j'ai rencontré Rouven aujourd'hui.
Oui. Oui. Tout à fait.
Alors, si tu peux mettre les cours là-bas, je sais pas comment tu lui donnes à lui, je sais pas comment vous
faites. Je lui envoie le lien.
Demain, je vais essayer d'en faire. Si je peux mettre les gens, ils ont apprécié. On faire profiter le maximum. Et,
très bien.
Et il y a Daniel Kobi, il aurait voulu que tu lui envoies le lien pour qu'il écoute.
Ça marche. D'autres.
Ok, ça marche. Alors je t'envoie et on fait circuler.
De toute façon, je te l'envoie à toi et tu l'enverras après et tu le feras circuler.
Okay, très bien.
Merci beaucoup, Todaraba, Michel.
C'est que audio, tu enregistres que audio?
L'enregistrement est audio. Il faut que je vois
s'il y a l'intérêt d'enregistrer vidéo. Je ne sais pas s'il y a l'intérêt.
Oui. Bon, je vais voir ce que j'ai. En tout cas, je t'envoie ce que j'ai.
D'accord, pas de problème. Moi, c'est juste pour les toilettes. C'est quelqu'un qui m'a c'est Daniel Koubi qui m'a demandé. Donc,
d'accord.
J'ai mes raisons.
Okay, tout à fait. Allez, merci beaucoup, Michel.
Ce soir, c'est l'Abdika.
Oui.
Donc ce soir l'abdika, demain je ne sais pas si on aura l'occasion, on est occupé. Bon, peu importe, ou bien alors on se voit Bezrat Hashem dimanche ou lundi.
D'accord, Bezrat Hashem.
J'ai entendu un message que le confinement, il y a des chances que ça cesse le 18 mai. J'ai vu passer.
Ah oui.
J'ai un truc comme ça, zone B, zone 3, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, on a à peu près encore un certain temps de confinage.
Ouais.
Donc, on est là.
Donc, il y a de quoi faire, Bezrat Hashem. D'accord. Merci beaucoup, Michel.
Bezrat Hashem. Et à quand je vous rachem à l'amour Israël. Mais allez, nous sommes des.
Amen, amen. Amen.
Tu m'éteins comment je t'éteins? Ah, il est parti. Très bien. Second. Attends une seconde.